C'est le journal d'Alexis Morel. Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est un procès tardif, mais qui n'en reste pas moins primordial pour les descendants des victimes. Un ancien nazi, aujourd'hui centenaire, est jugé à partir d'aujourd'hui en Allemagne. Parmi les parties civiles, un Français, fils de déporté, va témoigner à l'audience. Il en attend beaucoup, vous l'entendrez. La droite compte profiter de la journée qui lui est réservée aujourd'hui à l'Assemblée. C'est ce qu'on appelle une niche parlementaire. Et LR pourrait bien mettre en difficulté la majorité, notamment sur le calcul de l'allocation adulte handicapé. On vous expliquera pourquoi. Dans ce journal aussi, les entreprises plus vulnérables que jamais face à leurs fournisseurs en ces temps de pénurie et les studios d'Hollywood sous la menace d'une grève.
Au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui l'historien Achille Membe, auteur du rapport Les Nouvelles Relations Afrique-France, relevez ensemble les défis de demain. Plus de 75 ans après Alexis, le traumatisme reste bien présent chez les familles de déportés.
L'Allemagne tente de rattraper le temps perdu en jugeant les derniers anciens nazis encore en vie. Le procès d'un centenaire s'ouvre aujourd'hui, entre 1942 et 1945. Il était gardien au camp de concentration de Sachsenhausen, près de Berlin. Il comparaît pour complicité de meurtre de 3500 prisonniers. Parmi ses victimes, le Français Jean Grimbach, résistant déporté, mort là-bas des suites du travail forcé et de torture. Son fils Antoine s'est constitué partie civile à ce procès. Cet architecte parisien sera tout à l'heure dans la salle d'audience à Brandebourg.
Le camp de Sachsenhausen, c'est le camp d'études de toutes les machines à tuer le maximum de gens le plus vite possible. Les chambres à gaz ont été inventées à Sachsenhausen. Tous les outils, tout ce qu'ils ont fait là, a été ensuite appliqué dans tous les camps. Vous ne pouvez pas imaginer ce que l'acte d'accusation raconte, 134 pages d'horreur et la torture. Mon père l'a été comme les autres. L'accès aux archives du camp a donné des précisions. À telle heure, M. Grimbach rentre se faire torturer. On l'a mis dans un camp de travail. On l'a ramené au camp dans un état physique tel qu'on l'a mis au Kleine Revier. C'était un mouroir pour voir en combien de temps ils vont mourir. Et c'est cette horreur que je veux dénoncer. Mais je pense qu'il faut que les troisièmes couteaux des gens qui sont des gardiens. Mais ce type-là, comme plein d'autres, il était dans l'appareil de destruction et de mort totale. Pour moi, il n'y a pas de prescription. Donc je pense qu'il faut qu'on raconte cet énorme outil industriel de la mort pour que ça n'existe plus jamais.
Antoine Grimbach avec Lauriane Delanoë. Il sera donc partie civile au procès de cet ancien nazi jugé jusqu'en janvier en Allemagne. Ce n'est pas le seul en ce moment. Un autre procès d'une ancienne secrétaire d'un camp s'est ouvert il y a 10 jours avant d'être reporté car l'accusé de 96 ans a brièvement pris la fuite. En France, plus de masque obligatoire à l'école primaire dans 21 départements supplémentaires. La mesure s'étend à partir de lundi prochain, selon un décret publié ce matin au journal officiel. Parmi ces nouveaux départements, la Gironde, l'Ille-et-Vilaine ou encore la Haute-Garonne, ce qui fera au total 68 départements concernés. Vous retrouvez dès maintenant sur franceinter.fr la carte de France réactualisée. En Guadeloupe, le débat sur l'obligation vaccinale des soignants reste très virulent. Les autorités sanitaires dénoncent ce matin des actions de sabotage et des actes malveillants au sein des hôpitaux. De l'huile de vidange déversée au service RH du CHU, encore de la colle dans les serrures, certains accès bloqués. Moins de 44% des adultes sont primo-vaccinés en Guadeloupe.
Il est 7h34. À gauche comme à droite, Alexis, toute l'opposition y est favorable.
Mais pas la majorité qui craint, elle, un piège politique. À la faveur d'une niche parlementaire, une journée qui leur est réservée à l'Assemblée, les députés LR vont proposer plusieurs textes aujourd'hui, notamment le ticket resto étudiant, mais aussi et surtout cette réforme du calcul de l'allocation adulte handicapé pour les personnes en couple. Question ultra sensible qui avait déjà provoqué en juin dernier une séance houleuse à l'Assemblée. Anne Souhaitement.
Les niches parlementaires, un piège à con. Au gouvernement, on fait la moue, car la droite compte bien faire le show. Aux manettes, Aurélien Pradier, 3 ans après son coup d'éclat sur la scolarisation des enfants handicapés, le numéro 3 du parti LR revient à la charge. Dans son viseur, l'allocation adulte handicapé, l'élu de droite veut la déconjugaliser, bref, que son montant ne tienne pas compte des revenus du conjoint. Non au prix de l'amour, s'énerve-t-il, soutenu par toute l'opposition.
Est-ce que sur l'allocation adulte handicapé, qui aujourd'hui est une injustice parce que vous êtes pénalisé si vous vivez en couple, est-ce qu'on a avancé? Non, on n'a pas avancé. Donc le baratin, les déclarations politiques qui consistent à faire de la communication autour du handicap, ça ne suffit pas.
Démagogie, répond la majorité, agacée de voir revenir un texte déjà débattu et qui avait poussé le gouvernement dans ses derniers retranchements. Députée LaREM, Christine Cloarec-Lenabour, dénonce une manœuvre politique.
Le fait que toutes les oppositions soient contre nous, vous pensez bien qu'à quelques mois des élections, c'est purement politique et c'est très dommage.
Dommage mais surtout risqué. Sur le handicap ou la question du ticket restaurant étudiant, possible que la majorité se fracture à nouveau et le scénario pourrait se reproduire avant la présidentielle. 8 autres niches parlementaires sont programmées.
Des éboueurs réquisitionnés à Marseille, c'est très rare. La préfecture de police des Bouches-du-Rhône hausse le ton face aux milliers de tonnes de déchets qui restent à ramasser dans les rues de la ville. La collecte a repris en partie ces derniers jours, mais il reste des agents grévistes dans certains secteurs. Des réquisitions sont donc prévues dès aujourd'hui à Marseille, mais aussi dans d'autres villes de la métropole. Elles réclament un meilleur statut et le salaire qui va avec. Les sages-femmes dans la rue aujourd'hui, pour la 6e fois cette année, après déjà une grève très suivie fin septembre. Reportage dans leur quotidien à suivre dans le journal de 8h. L'INSEE le confirme, la reprise économique en France est plus rapide que prévu, avec un taux de chômage en fin d'année qui sera au plus bas depuis 2008 à 7,6% selon les prévisions et une croissance qui devrait dépasser les 6% sur l'ensemble de 2021. Mais il y a quelques nuages dans ce ciel bleu. La hausse des prix et les pénuries de plus en plus nombreuses, notamment pour les entreprises. Dans ce contexte, elles sont de plus en plus vulnérables à ce qu'on appelle les risques externes liés à leurs fournisseurs ou à leurs clients. C'est l'alerte lancée ce matin par le cabinet Deloitte après une étude menée auprès d'un millier d'entreprises dans une trentaine de pays, Fabien Cazot.
C'est une conséquence des ruptures d'approvisionnement en composants et en matières premières, notamment dans l'industrie. Les entreprises sont plus dépendantes que jamais de leurs fournisseurs alors qu'elles sont déjà elles-mêmes convalescentes. Une sur deux au niveau mondial, 51% déclarent avoir été confrontés à la défaillance d'un fournisseur depuis le début de la pandémie, ce qui peut avoir pour elles des conséquences en cascade. Sonia Cabanis, associée du cabinet Deloitte qui a piloté l'étude.
Si par exemple mon fournisseur ne me livre pas à un moment donné, cela peut impacter ma production et moi-même ne pas être en mesure de livrer mon client. Voilà, donc il y a un vrai risque lié à la continuité d'activité qui est assez important. Et donc l'idée aujourd'hui pour les entreprises, c'est de se dire comment je peux travailler main dans la main avec mon fournisseur pour mettre en place un dispositif qui va me permettre d'identifier les alertes en temps réel, qui va me permettre d'avoir une remontée continue d'informations pour éviter la matérialisation de la crise.
Des risques en amont avec les fournisseurs qui s'ajoutent aux risques en aval avec les clients en défaut de paiement. Un véritable risque de contagion qui incite de plus en plus d'entreprises à rapatrier en interne des activités qu'elles avaient sous-traitées. Une volonté qui se heurte, selon l'étude, dans 80% des cas à des marges budgétaires encore fragilisées par la crise sanitaire.
Fabien Cazot. Et pour compenser justement l'impact économique de cette crise sanitaire, 10 000 cafetiers et restaurateurs parisiens ont pu étendre leurs terrasses depuis le Covid. La saison des terrasses éphémères qui va s'achever à la fin du mois. Il faudra remballer provisoirement car elles reviendront au printemps prochain. Aux grandes dames des riverains, malgré le durcissement récent des règles, ils se plaignent toujours des nuisances sonores, Julien Morcelli.
Sur les grands boulevards, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver une terrasse en infraction.
On est devant un bistrot rue Montmartre. La distance entre la table et le trottoir, il y a à peu près 1m30 là. Il faut 1m60 et c'est pas respecté non plus. C'est le cas le plus courant.
Ce riverain, excédé, a déjà adressé un manifeste de 40 pages à la maire de Paris, Anne Hidalgo. Mais la situation ne s'est pas beaucoup améliorée.
Alors on a un bistrot-restaurant là qui effectivement utilise pour sa terrasse une place de livraison. C'est formellement interdit.
Sur son portable, Jean-François montre aussi des vidéos du quartier tourné à 1h du matin. On y voit des clients toujours attablés. Les terrasses éphémères doivent pourtant être fermées après 22h. Le gérant risque jusqu'à 500 euros d'amende. Mais en réalité, beaucoup de commerçants préfèrent prendre le risque. C'est ce que nous confie un restaurateur du sentier.
Généralement, quand on n'a pas vraiment l'autorisation, l'amende est moins chère que la terrasse coûte. Vous préférez peut-être prendre des amendes et mettre plein de tables sans payer le droit terrasse. C'est complètement rentable.
D'autres restaurateurs jouent le jeu. Dans le deuxième arrondissement, Yann a pu doubler la superficie de sa terrasse sans gêner ses voisins.
On ne fait pas trop de bruit, il n'y a pas de musique à l'extérieur. Ce n'est pas une situation qui apporte beaucoup plus de bruit que notre terrasse permanente.
Au printemps prochain, les terrasses estivales reviendront, mais payantes. Leur prix variera en fonction des arrondissements. Environ 600 euros par an pour 12 mètres carrés dans le quartier de l'Opéra Garnier.
Reportage sur les terrasses parisiennes, Julien Morcelli. C'était l'un des derniers pays à ne pas l'avoir fait. La Turquie ratifie finalement l'accord de Paris de 2016 sur le climat. Le Parlement turc l'a voté à l'unanimité hier soir. 191e pays à rejoindre cet accord, et pas n'importe lequel, hein, un gros émetteur de gaz à effet de serre. Nous ne permettrons pas que cette privation choquante d'un droit si important se poursuive un jour de plus. Déclaration cette nuit d'un juge fédéral du Texas. Il a bloqué temporairement la loi interdisant les avortements dans cet état américain. Cela fait suite à la plainte déposée par le gouvernement Biden et une levée de boucliers à travers les États-Unis, des dizaines de milliers de manifestants pour le droit à l'avortement le week-end dernier. Le Texas peut encore faire appel.
Il est 7h40, les productions hollywoodiennes menacées de paralysie.
Oui, imaginez tous les tournages à l'arrêt. Les mythiques studios d'Hollywood sont menacés par une grève inédite des techniciens. Elle n'est pas encore officiellement déclenchée, mais le syndicat des techniciens du cinéma a reçu le feu vert de sa base pour la lancer si les négociations menées avec le patronat n'aboutissent pas. Ces discussions sur les conditions de travail ont commencé au mois de mai, Loïc Piala.
Une décoratrice compare son métier au hamster dans sa roue. Sur un compte Instagram dédié, des techniciens parlent de 136 jours de travail d'affilée, de journées dépassant les 12 heures sans pause déjeuner, de salaire à peine supérieur à 13 euros de l'heure, le minimum en Californie. La cadence des productions a augmenté pour compenser l'inactivité due au Covid. La soif de contenu du public a aussi bouleversé l'industrie. La saison traditionnelle de la télévision de septembre à juin, avec des plages de repos en été, a disparu. Alors l'IATSE, l'Alliance internationale des employés de la scène, exige du changement, comme l'augmentation des salaires sur les projets Netflix, des salaires négociés en 2009, avant l'avènement du streaming. Les producteurs estiment quant à eux avoir fait des propositions satisfaisantes, compte tenu du contexte de pandémie. La dernière grève massive, celle des scénaristes en 2007, avait coûté 1 milliard de dollars à l'économie locale. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
Eux ne seront pas grévistes ce soir. Au contraire, ils veulent prendre leur revanche sur les Français, les Diables Rouges belges qui affrontent les Bleus en demi-finale de la Ligue des Nations de foot. Première rencontre depuis l'élimination au Mondial 2018. Coup d'envoi 20h45.
Merci Alexis Morel. L'édito politique, Thomas Legrand.